Chapitre 12. Assis à son bureau, le maire cache mal son irritation. Il pourrait casser une noisette entre ses sourcils. Devant lui, le journal est ouvert sur le dernier article de Grégoire. Les octogéniaux passent à table. En illustration, mon petit-fils a opté pour le juste au corps de Joséphine face aux mines déconfites de l'Assemblée. Nous avons refusé de nous asseoir. Alignés face à Didier, la tête haute, nous attendons notre sermon. « Vous savez que j'ai de l'affection pour vous, hein, » attaque-t-il. « Mais ma patience a des limites. Hein. Pouvez-vous me dire à quoi rimait la petite scène de vendredi, hein ?»« Tu as l'air contrarié. Ça ne t'a pas plu ?» demande Gustave d'un ton doucereux. « Je suis déçu, je me suis vraiment donné à fond, » ajoute Joséphine. Anatole étouffe un rire. Le maire soupire. « Je comprends que vous soyez chagriné par ce projet, hein. Je le comprends sincèrement, » poursuit-il en insistant sur le dernier mot. « Moi-même, je suis triste, hein. J'ai tellement de souvenirs dans ce lieu, hein. » « Alors renonce !» l'interrompt Marius. Didier fait claquer sa langue. « Être maire, c'est penser aux autres avant de penser à soi, hein. La construction d'une école supplémentaire soulagera des classes surchargées, hein. Nous n'avons pas le choix. » « Et bien sûr, c'est pas possible de la faire ailleurs, » grince Rosalie. Plusieurs études ont été réalisées, hein. La place est le meilleur endroit. Il commence à m'agacer, le petit, avec ses arguments aussi solides que mes fémurs. J'avance d'un pas. Didier, tu veux vraiment nous faire croire que tout cela n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé? Il devait s'y attendre. Immédiatement, il déclame dans un long monologue son impartialité. Son dévouement à la population, son engagement qui ne souffre d'aucune entrave émotionnelle. J'observe ce visage familier à la recherche du petit garçon qui venait des heures durant caresser notre chat. Mais je ne le trouve pas. Il a disparu, sous un costume gris et de grandes tirades. Nous nous apprêtons à prendre congé lorsqu'il toussote. Les toussotements sont de mauvais augure. « Je dois vous annoncer que le projet a avancé, hein, » déclare-t-il en regardant ses mains. « Une proposition financière vous sera faite d'ici la fin du mois. Si vous l'acceptez, nous vous aiderons à trouver un nouveau logement sur la commune. Hein. »« Et si nous refusons ?» fulmine Marius. Didier soupire. « Je vous conseille fortement d'accepter. Hein. » Le retour me semble plus long que l'aller. Grégoire conduit sans doute aussi vite. Mais tout prend plus de temps. Le paysage défile au ralenti. La trotteuse de ma montre se traîne. Seules mes pensées filent à toute allure. Cela va vraiment arriver. Nous allons vraiment devoir quitter notre maison. Nous n'avons pas les moyens d'en acheter une autre. Jamais celle-ci ne nous rapportera assez. Et puis serait-ce bien raisonnable, alors que nous peinons à entretenir une telle surface. Nous devrons prendre un petit appartement. Nous viderons nos placards, classerons nos objets par ordre d'importance, ceux dont on ne peut se séparer, ceux dont on doit se séparer. Je ne suis pas matérialiste, pourtant l'idée de me défaire des objets qui ornent notre quotidien me brise le cœur. Ils sont tous liés à un moment, à une personne, à une époque. C'est rassurant de vivre au milieu de ces souvenirs. Nous allons vraiment devoir fermer la porte. Abaisser une dernière fois la poignée blanche. Rabattre une dernière fois les volets rouillés. Appuyer une dernière fois sur l'interrupteur qui m'a tant fait râler parce qu'il était mal placé. Nous abaisserons une autre poignée. Nous ferons entrer les meubles qui auront survécu dans notre nouveau chez nous. Nous prendrons nos marques. Et lors de l'insomnie du milieu de la nuit, à l'heure où la mélancolie le dispute à la nostalgie, on tentera de se réconforter en se disant que ce n'était que des pierres, que des tuiles, que c'était trop grand pour nous et en mauvais état. Et on se recroquevillera sous la couette en convoquant d'autres pensées pour camoufler celle-là. Grégoire gare la voiture dans l'allée. Rosalie descend la première et se dirige vers son portail. Je presse le pas pour la rattraper, l'air de rien. « Rosalie, Elle se tourne vers moi, une cigarette entre les lèvres. « Toi, tu as quelque chose à me demander, » dit-elle avant de l'allumer. « Tu es tellement agréable. » « J'ai eu une bonne prof. »« Bon, tu veux quoi ?» Je regarde autour de nous. Grégoire aide Anatole à descendre de la voiture. Il me reste quelques secondes avant qu'il n'arrive. Je me penche à son oreille. « J'ai un immense service à te demander. » Elle tire longuement sur sa cigarette, une fois, deux fois, en me fixant droit dans les yeux avant de hocher la tête. « Qu'est-ce que je peux faire ?»« Il faut que tu me promettes de ne rien dire à personne. » Ses yeux se plissent et elle me sourit. « Ma chérie, t'es bien placée pour savoir que je sais garder les secrets.